Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, les sens et les débats.
En direct du studio 611, une émission réalisée dans le respect des opinions de chacun par Clément Nouillet, assisté de June Loper avec Stéphane Beaujat à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, le grand débat national des beaux quartiers aux quartiers populaires. À quoi ressemble cet exercice selon qu'on se retrouve à Montreuil, à Nanterre ou dans le 16e arrondissement?
Ah bon. Je ne peux pas accepter de me faire injurier comme ça.
Nous devons continuer à faire pression, de mobiliser, car Macron, son grand débat, c'est du pipeau, on l'a dit, c'est de l'arnaque.
Vous parlerez, madame.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
C'est aujourd'hui l'acte 14 des Gilets jaunes, vous l'avez entendu aux infos. Et alors que beaucoup trouvent que ça s'éternise, que d'autres essayent de rattacher les wagons un peu partout, dans les mairies, sur internet, dans les gares et même dans les prisons, a été lancée la grande consultation voulue par le président comme catharsis à la colère. Il nous a semblé donc que ce grand débat national était une occasion d'observer nos concitoyens, ceux qui sont d'accord ou non, ceux qui s'en foutent un peu, puis ceux qui ont décidé que ça se passerait pas comme ça. On a déjà pu voir comment le questionnaire proposé comme réponse au cahier de doléances des Gilets jaunes, avec le retour à l'ISF ou les référendums d'initiative citoyenne, cachait à peine une marge de manœuvre bien circonscrite. En demandant quelles dépenses publiques êtes-vous prête à réduire pour baisser les impôts, c'est vrai que la réponse est un peu dans la question. Et place aux alternatives, elle est reléguée aux commentaires libres dont les délais de traitement informatique pour obtenir une synthèse risquent d'être proprement intenables. Alors nous allons nous intéresser au débat dans la vraie vie avec ceux qui ont envie, sinon de se faire entendre, au moins de l'ouvrir pour une fois. Et j'imagine, Charlotte, que dans les beaux quartiers, certaines questions ne se posaient même pas.
Ou alors au risque de se faire dûment huer. Car dans le 16e arrondissement de Paris, où se concentrait le plus grand nombre de contribuables assujettis à l'ISF, autant vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de gilets jaunes dans l'Assemblée. À vrai dire, aucun.
Alors si les 1% et des broutilles ont su mener leur débat en grand, dans les quartiers populaires, Antoine, les grands débats ne se tenaient pas toujours là où on les attendait.
Et voilà que la périphérie s'en mêle, la périphérie des grandes villes, la banlieue quoi, qui enfile son gilet jaune et qui commence à occuper les carrefours Croix-de-Chavaux à Montreuil ou la Boule à Nanterre, des points fixes pour faire de la proximité, mais pas comme les stands de proximité officiels censés alimenter le grand débat. Ceux-là, on les a pas trouvés.
Alors jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court... Court après le grand débat national des beaux quartiers jusqu'aux quartiers populaires.
Françaises, Français, nous devons nous rassembler et aborder ensemble toutes les questions essentielles à la nation.
Le grand débat national, il a commencé le 15 janvier, il prendra fin le 15 mars.
Les Français nous disent quoi ? On a besoin de se parler.
Non. C'est moi qui donne le micro.
Vous voulez que les impôts baissent ?
Je vous demande de vous asseoir.
Il est du travail pour tous.
Non, c'est pas une communauté autogérée.
Que l'inflation soit stoppée.
Je ne suis pas le Père Noël.
Nous ne pouvons rien faire pour le moment. Mais dès que nous le pourrons, nous ferons le double.
Tout ça, c'est des belles promesses. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des garanties.
Je redis, les téléspectateurs, ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'un grand débat, un atelier du grand débat, ça peut être n'importe quoi. Dimanche, vous allez manger chez votre belle-mère, vous allez être 8-9 autour de la table. Ah bah, oui. C'est plus une engueulade familiale, c'est un atelier du grand débat national.
Comme un bruit qui court.
Macron, dégage.
Antoine, ciao.
Les Français seront-ils entendus?
Charlotte Berry.
C'est la grande question.
Qui manque-t-il?
Hashtag comme un bruit.
Nanterre, ville. Gilets jaunes, Nanterre, acte 13. Prochaine assemblée des Gilets jaunes, mercredi 13 février, 19h, Centre social et culturel ICO. tous unis pour obtenir l'augmentation immédiate des salaires, des traitements, des minima sociaux, des allocations et des retraites. La suppression du CICE pour les groupes du CAC 40 et rétablissement de l'ISF. Rétablir le service public qui nous permet d'accéder au transport, à la poste, à l'éducation, aux gardes d'enfants et aux aides sociales. Gilets jaunes, Nanterre.
Allez, au revoir.
Bon, Philippe.
Oui, alors.
On sort d'une réunion, là.
Mm-hmm.
Et bah, aujourd'hui, les Nantériens s'organisent, justement, non ?
Il y a une, il y a un collectif des Gilets jaunes qui existe à Nanterre depuis. Je crois que c'est le deuxième mercredi de janvier.
C'est tout récent, quoi.
Ah oui, c'est après les fêtes.
Ouais.
Voilà, alors, au départ, première réunion, ça s'est fait un peu par le bouche à oreille. On était 27 au départ. Ensuite, il y a eu la deuxième réunion, on était 45. Et la deuxième réunion, on avait décidé d'aller à Commercy. Sur la composition, un petit peu. Ici, c'est une ville avec des traditions du mouvement ouvrier très anciennes, etc. Donc, il y a quand même certainement, par rapport à des tas de ronds-points ou d'endroits en province où c'est des primo arrivant à la politique au sens large qui s'organise, là on a une présence militante, je dirais ancienne, affirmée, etc., qui est plus importante. Voilà. En gros, sur la base, on a une base de 70 personnes là maintenant sur la liste mail, sur les différents contacts qu'on a pu faire sur les marchés, etc. Et je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme 40% des gens dans cette liste qui sont pas des militants ou militantes expérimentés, quoi. Voilà. Une des questions, c'est de faire en sorte que ces gens-là se sentent vraiment propriétaires du mouvement et qu'ils se sentent pas dépossédés par des gens qui ont de la bouteille, qui ont l'habitude de prendre la parole, etc.
Oui, qui se recyclent dans les gilets jaunes, quoi.
Et qui se recyclent dans les gilets jaunes, voilà. Donc ça, c'est un véritable enjeu, hein. Bon. En fait, il y a trois personnes du collectif de Nanterre qui sont allées à Commercy. Deux avec un mandat qui était un mandat assez simple. Un sur la lutte contre la répression, la condamnation de la répression. Deuxième truc, c'était le refus total du grand débat de Macron. Et puis, bon, voilà, les revendications de base des Gilets jaunes sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, sur les services publics aussi. C'était ça notre mandat, c'était un mandat assez basique par rapport à d'autres qui existaient déjà depuis longtemps. On est revenu, l'appel de Commercy, donc à la troisième AG qui a eu lieu ici. Là c'est la cinquième en fait maintenant qui se tient là. La troisième AG a validé, il y avait une quarantaine de personnes, une quasi-unanimité pour valider, pour approuver l'appel de Commercy.
Appel de la première assemblée des assemblées des Gilets jaunes. Nous, Gilets jaunes des ronds-points, des parkings, des places, des assemblées, des manifs. Nous sommes réunis ces 26 et 27 janvier 2019 en assemblée des assemblées, réunissant une centaine de délégations répondant à l'appel des Gilets jaunes de Commercy.
Depuis le 17 novembre, du plus petit village, du monde rural à la plus grande ville, nous nous sommes soulevés contre cette société profondément violente, injuste et insupportable.
Quelle entourloupe que ce grand débat national, qui est en fait une campagne de communication du gouvernement. La vraie démocratie, nous la pratiquons dans nos assemblées, sur nos ronds-points. Elle n'est ni sur les plateaux télé, ni dans les pseudo-tables rondes organisées par Macron.
Nous, Gilets jaunes, invitons chacun avec ses moyens, à sa mesure, à nous rejoindre. Nous appelons à poursuivre les actes. Acte 12 contre les violences policières, acte 13, 14. À continuer les occupations des ronds-points et le blocage de l'économie. Prenons nos affaires en main, ne restez pas seuls, rejoignez-nous.
Organisons-nous de façon démocratique, autonome et indépendante. Cette assemblée des assemblées est une étape importante qui nous permet de discuter de nos revendications et de nos moyens d'action. Fédérons-nous pour transformer la société.
Alors Nanterre préfecture, on peut donner son sang, place François Mitterrand, mais on peut, y a pas, je vois pas de stand de proximité comme annoncé dans la presse locale et sur le site du Grand Débat National. Il y a des vendeurs de chaussettes, le stand de proximité. Excusez-moi, je cherche les stands de proximité pour participer au Grand Débat National. On m'a dit qu'il y avait un stand ici. On est bien au RER Nanterre Préfecture, Nanterre Préf. Ouais. Vous avez participé, vous, au Grand Débat?
Non, on ne vit pas ici.
Ah, vous ne vivez pas là? Non, mais c'est national, hein.
C'est les Gilets jaunes.
C'est les Gilets jaunes, ouais. C'est même au-delà des Gilets jaunes, quoi. C'est pour tout le monde, quoi. C'est national, quoi. Des doléances, quoi. On m'a dit qu'il allait y avoir un stand ici pour le Grand Débat, là. Ah. Un stand de proximité pour participer au Grand Débat.
Je vais demander à ce monsieur.
Ah.
Si il est peut-être au courant parce que...
Il est du coin.
Du stand.
Ah ouais, du stand de livres.
Oui.
D'accord.
Donc il sera peut-être mieux.
Bonjour. On m'a parlé, on m'a dit qu'un stand de proximité allait s'installer ici pour participer au Grand Débat. Ah. Ça vous dit rien? Vous avez votre stand de livres ici depuis ce matin, quoi. Depuis une éternité.
Ouais.
D'accord.
Non, je sais pas.
Bon, bah, je vais attendre un peu alors. Pas le moindre stand de proximité donc à la sortie du RER Nanterre Préf, non. Alors j'ai appelé Djamila, elle est comptable dans la vie et dans le collectif Gilets jaunes, elle va m'éclairer et elle va pas tarder.
Alors en attendant, Charlotte, elle est allée sonder le cœur des Français, mais tout près de la maison de la radio, chez nos voisins pour ainsi dire, ceux que Guillaume Meurice va souvent enquiquiner avec son micro. Les résidents du très chic 16e arrondissement de Paris avaient eux aussi Grand Débat.
Mardi 12 février. Il est presque 18h et on est arrivé devant la mairie du 16e arrondissement. Grand bâtiment. Et ce soir, c'est le soir du Grand Débat National. Là où les contribuables payaient le plus d'ISF à l'époque où il existait encore. Et ce soir, les habitants du 16e sont donc conviés pour débattre des quatre thèmes imposés par notre président: fiscalité, citoyenneté, écologie et services publics.
Mais un tel débat doit se dérouler aussi partout sur le terrain.
Alors, qu'est-ce qui préoccupe les habitants du 16e?
Ces changements de fond,
eh bien, on va le savoir ce soir.
Imposent un débat sans précédent. Je veux en assurer moi-même la coordination, en recevoir les avis, pour rendre ainsi le pouls vivant de notre pays.
Le Grand Débat, madame, c'est l'escalier d'honneur.
C'est cet escalier-là?
Oui.
Le Grand Débat, salle des fêtes, c'est là-haut.
Tout à fait.
Très bien, je vous remercie.
Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé.
C'est où le Grand Débat? C'est ici?
Ça va être dans la grande salle.
C'est la grande là-bas,
voilà.
Hein.
Nous sommes à un moment historique pour notre pays.
Je vous suis.
Il y a deux ans.
Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons.
Ah, vous êtes journaliste? Je trouve que même un grand débat comme ça, vous voyez, ça ne crée pas le débat, justement. C'est pas un espace de débat.
Je trouve la disposition, là, la petite estrade, les quatre chaises devant.
Oui, non, mais c'est une disposition scolaire. Mais on est peut-être ici, dans un des quartiers, où on aime bien cette discipline. Il y a les possesseurs. On a l'impression d'être en classe.
Mais je vous demande de vous asseoir. Voilà.
Cet habitant du 16e.
Oui, mais enfin, vous savez, dans le 16e arrondissement, vous avez des gens très, très simples aussi. Mais voilà, enfin, dire qu'on habite dans le 16e, on est catalogué.
Oh, mais c'est ridicule. Je précise que vous n'avez pas mis votre moto de fourrure.
Non, j'habite dans un 13 mètres carrés, alors.
Comment vous appelez?
Nicole. J'avoue que je suis déçue. C'est pas un débat. Ça peut pas être un débat. Là, j'ai l'impression de retourner en classe. Enfin, c'est terrible parce que quand je vois ça, je trouve que c'est un peu agressif. C'est une disposition d'école. Enfin, c'est pas une disposition d'échange. Ça me met mal à l'aise.
Bon, bah, on va voir ce que ça va donner. La salle est impressionnante, en tout cas. Les grands lustres, néo plafond.
Ouais, ouais, ouais. Ah, mais ça, c'est la salle des fêtes du 16e. C'est là où j'ai tenu des bureaux de vote.
C'est léger, hein, c'est léger.
léger, c'est léger, c'est léger de ouf.
Je suis désolé, on débat pas comme ça.
Oh.
C'est peut-être le 16e.
Tu souffles quoi, mais c'est la vie, hein. C'est la vie qui veut ça, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ah, ah.
Bon, bah, on débat, ok. Allez, bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir.
Ah, et test. 1, 2, 1, 2, France.
Oui.
1, 2.
Vous couvrez l'événement.
Vous êtes assis au premier rang. Vous êtes assis au premier rang.
Oui, ben.
Oui. Pourquoi vous êtes venu participer au grand débat, vous, ce soir?
Écoutez, je suis fait partie de La République En Marche et le comité du 16e, qui s'appelle le comité Trocadéro, m'a invité à venir. Bon, ben, je suis là. C'est le premier débat où j'assiste pour voir comment ça se passe, quoi. Je suis venu en tant que citoyen, mais bon, je suis à La République En Marche. Je suis pas gilet jaune.
Gilet jaune. Moi, depuis le début, ils me font chier, les gilets jaunes. Non, mais sans blague, comment ça se fait que 20 personnes peuvent emmerder autant de monde, quoi? C'est pas possible.
Disons que moi, je suis un pro-européen, et donc j'ai des idées sur le futur débat européen, élection même. Et alors, il y aura un...
Ça fait pas partie des thèmes du grand débat, là, ce soir. C'est fiscalité. Il y a quatre thèmes imposés.
Heureusement que vous êtes là pour me le dire, alors. Quoi d'autre?
Fiscalité et transition écologique, citoyenneté.
Vous avez bien fait de m'interviewer, parce que faudrait pas dire des bêtises. Et d'ailleurs, j'ai lu la charte, là. Il faut pas être hors sujet. Merci à Radio France de m'avoir mis sur le bon chemin.
Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes venu ce soir assister au grand débat?
Parce que j'ai été convoquée. J'ai reçu sur Internet un mail qui m'a dit qu'il y avait une réunion ce soir. Donc je suis venue. Sur l'éducation, moi je pense qu'il y a des choses à faire sûrement. Si vous voulez, bon, c'est peut-être un peu ringard, mais je pense qu'il faudrait que les classes ne soient plus mixtes au collège.
Qu'est-ce qui vous a amené à penser ça, vous?
De voir, si vous voulez, que les enfants n'obéissent plus, ne sont indisciplinés. Ça perturbe toutes les classes. Je ne suis pas enseignante, mais j'en ai parlé avec des enseignants qui pensent qu'effectivement, entre la 6e et la 4e, notamment, ça crée beaucoup de problèmes.
Vous, c'est pour parler d'éducation que vous êtes venu ce soir?
Oui, c'est ça.
Non, ça, je l'ai eu au marché. Je l'ai eu au marché jeudi dernier, au marché du point du jour. Là, j'ai encore rien rédigé. J'ai des idées, j'ai réfléchi. Je mettrai ça dans l'urne avant le 15 mars. Mais je vais regarder ce soir ce qui sort du truc, là.
Qu'est-ce qui vous préoccupe parmi les grands thèmes?
Ben moi, il y a plusieurs choses. Bon, il y a déjà, j'étais prof, donc l'organisation de l'État et des services publics pour ce qui concerne l'éducation, ça c'est important. Les dépenses publiques, je suis maintenant retraité. J'ai vu effectivement ma CSG augmenter, voilà. Transition écologique, oui, parce que j'en ai marre de voir des éoliennes qui bousillent des paysages magnifiques. Démocratie, citoyenneté, oui, parce que j'aimerais que tout le monde aille plus voter et participe davantage à la vie du pays. Bon, tout, finalement, les quatre grands centres de débat m'intéressent, quoi.
Parce que du coup, il y a des questions quand même bien précises sur les grands thèmes, par exemple sur la fiscalité, c'est quel impôt voudriez-vous voir baisser en premier?
Je suis concerné, comme vous vous en doutez, comme beaucoup de gens dans cette assemblée à la mairie du 16e. J'ai vu chuter effectivement l'ISF, et tant mieux. Je veux dire, on était matraqués, donc ça, je ne souhaite pas qu'elle revienne en place.
Ah oui, du coup, vous, le fait de plus payer l'ISF...
Ça m'a arrangé que ça ne soit plus que sur l'immobilier. Ça m'a fait une sacrée différence, je veux dire, j'ai tout à fait apprécié. Donc, moi, je voudrais ne pas voir rétabli l'ISF en cette formule.
Ça, c'est ce que demandent les gilets jaunes, en fait, de rétablir l'ISF.
Oui, c'est ça, parce que symboliquement, pour eux, je veux dire, c'est ça ne rapportait apparemment pas tant que ça, donc il y a peut-être moyen de dépenser mieux. Mais puis après, c'est très décourageant aussi pour les grosses fortunes dont je ne suis pas, mais je veux dire, c'est tellement confiscatoire qu'effectivement, ils ont la tentation de franchir les frontières pour payer moins.
Vous n'avez pas de schéma d'optimisation fiscale?
Non, j'en ai aucun. Je ne suis pas assez riche pour pouvoir envisager. Non, j'accomplis mon devoir de citoyen, je me fais rubis sur l'ongle ce que je dois payer. Mais je vous dis, quand je n'ai plus que mon appartement pour l'ISF, j'apprécie la différence.
Aujourd'hui ça va bien, il fait beau, Emmanuel est président. Aujourd'hui je crois que tout va bien en France, il fait beau depuis que Macron est président.
La salle s'est bien remplie depuis tout à l'heure. Ça y est, c'est plein.
À propos d'ISF, est-ce qu'on vous a beaucoup questionné sur le fait du retour des gens riches qui étaient à l'étranger? Parce qu'il paraît qu'il y a des fortunes
énormément de gens très riches qui sont partis. Est-ce qu'on pense à ce côté-là ? Pas simplement l'ISF des gens d'ici, mais le principal, ce serait de faire revenir les gens très riches.
Est-ce que vous avez entendu dire qu'ils revenaient, les gens, justement ?
Non, non, pour l'instant, ils ne peuvent pas, puisque
ils sont un peu dans le flou, quand même.
Non, pour l'instant, c'est impossible, puisque pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a toute cette agitation des gilets jaunes qui veulent remettre l'ISF. Donc, tant que les gens ne sont pas tranquilles, ils ne vont certainement pas bouger. Et en plus, il y a toujours l'IFI, ce qui n'aide pas. Et si tout était supprimé et si les gens étaient sûrs que ça ne va pas revenir, il y a énormément de gens qui reviendraient parce qu'ils aiment la France, ils veulent que leurs enfants soient éduqués en France, etc.
Mais pour payer les services publics d'éducation, il faut bien payer des impôts.
Ah, mais payer des impôts, c'est... Mais justement, si les gens riches reviennent, ils paieront l'IR. Les gens n'ont jamais quitté la France parce que l'impôt sur le revenu était élevé. Ils l'ont jamais quitté parce que la TVA était élevée. Il n'y a que l'ISF qui les a fait fuir et peut-être les plus-values. Et peut-être les droits de succession.
Donc vous seriez pour la suppression pure et simple de tous les impôts sur la fortune, en fait.
Il faut fuir les gens, oui, qu'il faut fuir les grosses fortunes, justement.
Oui, le plus simple, pour faire revenir les gens riches, il faudrait même supprimer l'IFI. Voilà, je pense que ça serait plus sage, quitte à peut-être augmenter un autre impôt,
mais passer sur le capital.
Mais c'est trop mal fichu, ça fait fuir les gens pour pas cher. Ça fait fuir les gens dont on a besoin pour pas cher.
N'empêche qu'on reste un pays très taxé quand même aussi. Donc
on est très très content d'avoir des services sociaux, mais moi je voudrais avant tout que les gens qui aient de l'argent, comme m'a dit un neveu, il y aura toujours des riches. Le principal, c'est qu'ils viennent payer leurs impôts chez nous.
Prenons au hasard l'ISF, le fameux impôt de solidarité sur la fortune. Mais cette contribution va faire fuir les pauvres riches. Vraiment ? Selon la banque Crédit Suisse, la France serait même le deuxième pays d'accueil des plus fortunés après les États-Unis, avec plus de 2 millions de millionnaires en dollars. Adieu, mythe de l'exode fiscal. C'est pourtant sur la base de cet argument qu'Emmanuel Macron a décidé en 2017 de remplacer ce prélèvement par l'impôt sur la fortune immobilière. Conséquence immédiate, une chute de 340 000 à 120 000 foyers fiscaux concernés et 3,2 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. Bien joué!
Bien joué, oui. Servir les intérêts des plus riches, quitte à avancer des arguments fallacieux, cela devait passer comme une lettre à la poste.
Mais c'était sans compter sur les gilets jaunes dont le mouvement sans précédent a quelque peu grippé la machine à fabriquer des inégalités fiscales. Et parmi ces milliers de petits grains de sable, il y a Jamila qui vient retrouver Antoine à Nanterre cette fois pour l'aider à rechercher les stands de proximité du grand débat.
Alors Jamila, on va quand même essayer de le trouver, ce stand de proximité, quoi.
Oui, on va essayer de le trouver. Il devrait être là, mais on ne le voit pas.
Qui a été annoncé en grande pompe par le gouvernement sur le site du Grand Débat.
Et on ne voit rien.
Là, il y a Photomaton, là, il y a Idée, mais c'est des sacs à main en solde. Il y a bien des sacs à main en solde.
Pour aller voir.
Bah ouais, on y va, Jamila, ouais. Parce que l'idée, quand même, hier, à l'AG des Gilets jaunes de Nanterre, c'était de peut-être faire venir à la rencontre du stand de proximité, quoi.
C'est ça, tout à fait. Et ben, on essayait de le trouver, quoi, en fait.
Voilà.
Et il est annoncé ici à Nanterre Préfecture, mais on ne voit rien du tout.
C'est une façon d'envisager la proximité, hein, d'être invisible.
Oui, c'est particulier.
Et toi, t'es nanterrienne ?
Oui. Tout à fait. Ici, c'est Nanterre Préfecture, hein. La ville des bureaux. Il y a beaucoup de bureaux. Puis il y a beaucoup d'HLM aussi. De l'autre côté, qui risque peut-être d'être rasé parce que ils sont en train de faire plein d'autres constructions, on ne sait pas trop. Et toutes les grandes entreprises, là, tout le long, là, c'est AXA, par exemple. Et il y a plein d'autres entreprises ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises.
Alors, vous avez monté un comité Gilets jaunes.
J'ai rejoint. Au départ, j'étais avec Gilets jaunes Pantin. Et ensuite, comme ça a ouvert ici, ben, j'ai rejoint. Là.
Et toi, t'es Gilets jaunes depuis le début, depuis le 17 novembre ?
Non, on va dire après. Après, quand j'ai vu que le président commençait à vraiment se fiche du monde, à vouloir faire dire que il avait augmenté le SMIG et qu'on entendait ça dans, sur toutes les radios, sur toutes les télés de grande masse, et que on entendait qu'il avait augmenté 100 € de SMIG, alors que c'était pas vrai du tout, et que certains journalistes le répétaient haut et fort. Et donc de là, j'ai dit, bon, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Vraiment, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Voilà.
Alors, t'as mis un gilet, quoi. T'as mis ton gilet jaune.
Tout à fait, tout à fait. J'ai été donc dans les manifs. Ouais. Voilà. Puis je me suis inscrit dans... Enfin, j'ai été voir des groupes de gilets jaunes, hein. Donc à Paris, à Pantin. J'ai fait des actions avec Pantin. Voilà.
Et t'étais politisé avant ou pas ?
Non, j'étais pas vraiment politisé. Bon, je m'intéresse. Je m'intéresse un petit peu. Parce que même acheter une baguette, c'est de la politique. Hein. Donc... Donc bien sûr, forcément, je m'intéresse. Mais bon, là, ça vraiment, c'est vraiment foutu de nous, quoi. Voilà.
Et toi, Jamila, aujourd'hui, tu te retrouves trésorière ou comptable, hein, du collectif Gilets jaunes.
Je me suis proposé à tenir la caisse. Personne ne voulait tenir la caisse. Donc voilà.
Comment on s'appelle entre Gilets jaunes ? On s'appelle copain, camarade, ami, gilet.
Non, moi, j'appelle par les prénoms.
Par les prénoms.
Ouais. Certains qui sont politisés disent camarades. Il y a beaucoup de gens politisés à Nanterre, dans les gilets jaunes. Mais ailleurs, par exemple, ce que j'ai vu, par exemple à Pantin, beaucoup moins. Donc, mais là, à Nanterre, beaucoup plus.
Mais quand tu dis beaucoup, c'est la moitié, quoi.
Non, de, des la gens... moitié, la moitié,
ouais.
moitié.
La moitié, ouais, c'est ça.
La moitié. Personne ne me répond. Personne ne me répond. Alors. Maëlle ? Oui, salut, c'est Jamila, ça va ? Oui, ça va. Oui. Excuse-moi. Ouais, gilet jaune de Nanterre. Ouais. Excuse-moi, est-ce que tu sais où sont les stands de proximité là à Nanterre ? Bon, ben on va aller voir à Nanterreville, si jamais. Ok. D'accord, merci. Ciao. Ben, il sait pas. Mais ce qu'on peut faire, si tu as le temps, on peut aller à Nanterreville.
Ben ouais.
On y va. Moi, je suis en transport. Hein.
Ben moi aussi.
Bon, voilà. Parfait.
Nanterre.
Quelque chose.
Alors, sortie Maurice Thérèse, est-ce qu'il y a un stand de proximité ? Écoute, hein, ouf, la proximité, c'est pas ici non plus. Hein. Il y a un vendeur de châtaignes, de marron chaud.
Eh hey, frère, pour la Saint-Valentin.
Ouais, bah tant pis, bredouille. Hein.
Voilà. On va boire un verre ?
Ouais, allez, on va boire un verre.
Voilà.
Alors,
voilà.
Ça c'est les revendications des gilets jaunes.
Là, tout ça... est détaillé. Hein.
Ouais. Et là, ça c'est toi qui as fait un...
Un récap de ce que j'ai entendu que ça réclamait autour de moi. Et je suis beaucoup sur Facebook. Et donc je vois un peu toutes les revendications que les gens demandent. Donc il y a bien sûr évidemment le pouvoir d'achat. Avec salaire, pension, retraite, minima sociaux augmentés, augmentation du SMIG, des retraites à allocation handicapée, pas de CSG sur les salaires et les pensions de moins de 2500, revoir l'assurance chômage, remettre les cotisations à CEDIC. Si les enlever, c'est un peu bizarre, quoi, quand même, après pour les gens qui... Donc l'abrogation des réformes qui détricotent le droit du travail, hein, la loi El Khomri, entre autres, hein, qu'on a beaucoup entendu parler, mettre la retraite à 60 ans, à 55 ans pour ceux qui ont des carrières pénibles, rattachement des artisans et commerçants au régime général, la jeunesse et l'éducation, suppression de Parcoursup, embauche d'enseignants, relance du plan de construction des universités, gratuité des études pour les Français et les étrangers, avec éventuellement des accords bilatéraux avec les pays étrangers, un revenu minimum garanti pour les jeunes étudiants français, et éventuellement étrangers avec accords bilatéraux, hein, pareil, avec le pays, Donc c'est, ça peut être des bourses, hein, des bourses d'études en fait, voilà. Les services publics, que tous les services publics soient revus à la hausse et de meilleure qualité, arrêter de détruire les hôpitaux, les écoles, tout ça.
À la hausse, hein, on est d'accord. Hein.
Oui, à la hausse.
Non, parce que Charlotte Perry, ma camarade, hein, qui bosse avec moi, enfin ma collègue, qui bosse avec moi, elle était dans le 16e arrondissement pour un rassemblement, enfin un grand débat. Et là, il demandait justement à diminuer les services publics. Dans le 16e arrondissement, il trouve qu'il y a trop de services publics, ça coûte trop cher.
Ils sont riches dans le service, dans le 16e arrondissement. Dans le 16e arrondissement, ils sont riches, mais de façon générale, même pour eux d'ailleurs, parce que même les services publics, c'est accès à tout le monde. Et quand c'est de qualité, parce qu'en ce moment, comme il manque beaucoup de personnel, qu'il manque du matériel, qu'il manque beaucoup de choses, donc le service se retrouve de pas bonne qualité. Donc c'est peut-être pour ça que les gens du 16e disent... nous, on s'en fout, on va dans nos cliniques privées ou on va dans notre... Voilà, donc c'est sûrement pour ça que... Si on a les moyens, c'est sûr, mais la majorité des gens n'ont pas les moyens. Et puis, de toute façon, c'est valorisant pour un pays d'avoir des bons services publics de qualité. De toute façon. Alors, on était où la dette? On a dit la proposition, arrêter la participation de la France aux guerres et arrêter de faire de la gérance dans les pays souverains pour éviter que... déjà qu'il y a beaucoup de monde qui souffre hein, déjà et qui se taille de leur pays, sinon ils resteraient dans leur pays. Alors voilà, puis pour conclure, ben, il faudrait qu'il arrête de Monsieur Macron hein, de traiter les Français comme de la merde. Il faudrait qu'il arrête de le traiter de feignants, de gens de peu, les descendants de son patron Hollande, hein, les premiers de cordée qui ruissellent sur les de rien, voilà. Et de prendre aussi le français pour des cons, traverser et vous trouver un travail. Si c'était si simple, là, tout le monde travaillerait. Hein. Et de continuer à faire ses réunions à Versailles. Hein. Monsieur Macron, les rois, le temps des rois, c'est fini. Voilà.
Je vais régler. T'invite.
Ah bah merci.
Françaises, Français, mes chers compatriotes.
Il y a comme un truc qui déconne, comme un truc qui déconne, comme un truc qui décolle chez toi. Y'a comme un truc qui déconne, un truc qui déconne, comme un truc qui résonne chez toi. Y'a comme un truc qui t'embrouille, comme une embrouille, comme un truc qui se déroule chez toi. Y'a comme un truc qui déconne, un truc qui déconne, comme un truc qui déconne chez toi. Y'a comme un truc qui t'embrouille, comme une embrouille, comme un truc qui se déroule chez toi. Y'a comme un truc qui te masse, des voix qui te squattent la tête, un truc pas net. Y'a comme un truc qui déconne, un truc qui déconne, comme un truc qui déconne chez toi.
Comme un bruit qui fout sur toi la terre.
Pourquoi t'as pris ça? Pourquoi t'as fait ça? Vas-y, arrête ça.
Allô, Antoine?
Ouais. Alors, Jamila, tu as enfin trouvé les stands de proximité de Nanterre?
Oui, oui, j'ai trouvé. En fait, elle est dans la poste de Nanterre, mais celle-ci est vers les bureaux.
Ah, d'accord. Et alors, tu as pu y faire un tour?
Bah oui, il y a deux jeunes filles qui sont là. Il n'y a personne qui vont vers elles.
Ah bon?
Voilà, il y a un imprimé à remplir. C'est un imprimé qui est dirigé quand même. Quoi. Donc, première question, par exemple, c'est... quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l'information des citoyens sur l'utilisation des impôts?
D'accord.
Améliorer l'information. Les gens, ils ne demandent pas l'amélioration de l'information. Hein. Afin de réduire le déficit public de la France, qui dépense plus que ce qu'elle ne gagne, pensez-vous qu'il faut avant tout... Alors, il y a quatre cases. Réduire la dépense publique, faire les deux en même temps, augmenter les impôts, je ne sais pas. Alors, moi, j'ai rajouté une case, on fait ni l'un ni l'autre. J'ai créé une case. Quoi.
Ah, t'as été obligé de faire une case, une autre case.
J'ai marqué ni l'un ni l'autre. Et c'est tout le long, c'est comme ça. Quoi. Donc, il faut que je rajoute,
Et Jamila, comment ça se passe dans ce bureau de poste, alors?
Bah, c'est quasiment vide. Hein. Bon, c'est beaucoup des entreprises qui viennent pour déposer leur courrier dans ce bureau de poste.
C'est pas pour les Nanterriens, quoi.
Du tout. C'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit pourquoi vous n'êtes pas implanté. Il y a deux autres postes qui sont implantés au niveau des HLM. Bon, après, elle m'a dit qu'il passait un jour par département. Donc, ils ont choisi une interpréfecture parce que tout le monde pouvait arriver à une interpréfecture, mais je lui ai dit que c'était mal indiqué, que hier on a cherché, qu'on n'a pas trouvé. C'est dommage, parce que qui c'est qui réclame? C'est les pauvres gens. Donc, c'est au milieu de bureaux, donc voilà. Donc,
Bon, je te remercie, Jamila. À bientôt.
Moi, j'ai fini de remplir mon questionnaire.
et tu te prépares pour l'acte 14, pour samedi?
L'acte 14, je ne sais pas encore où je vais aller avec qui, mais je vais sûrement être les zones de Nanterre, voilà. Et après, on va rejoindre Paris, voilà.
D'accord.
Dimanche, il y a un rond-point qui va être bloqué sur Nanterre.
Vous allez bloquer. Donc, vous aussi, vous allez prendre votre rond-point, quoi.
Voilà. Je ne sais pas si on va vraiment prendre le rond-point. En tous les cas, on va dire qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe dans la répression actuelle.
Oh, si les banlieusards s'y mettent, on n'est pas sortis, hein. Bon, merci, Jamila. Allez, bonne journée à toi, au revoir.
Quittons maintenant la France d'en bas et retournons dans les beaux quartiers où le débat va bientôt commencer dans une salle comble sous l'égide de Madame la maire du 16e arrondissement, Danielle Giazzi, qui n'était pourtant pas très favorable à ce grand débat. Débat au départ qu'elle qualifiait d'écran de fumée. Mais il faut bien entretenir le vernis de la démocratie et l'esprit républicain.
En fait, je demandais juste que les personnes qui vous distribueront le micro soient en place. Voilà. Bien.
C'est la mère.
Dans une démarche républicaine, j'ai souhaité ouvrir notre mairie du 16e arrondissement au débat. Évidemment, la totalité des échanges sera retranscrit afin qu'on puisse transmettre tout in extenso à la mission du grand débat.
La parole est à vous.
À vous. Première question, monsieur. Première intervention, contribution. Monsieur.
Bonsoir, mon nom est Mandol. Sur la fiscalité, moi j'ai deux propositions. Puisqu'en ces temps où les symboles sont forts, je pense que tout le monde devrait payer l'impôt, tous les Français, tous les salariés. Et ma deuxième proposition, qui est au lieu de se demander qu'est-ce que le pays peut faire pour nous, putain, la Kennedy, ce qu'on peut faire pour le pays, un petit peu comme ça a été fait en 2003 pour la canicule, est-ce que tous les Français, salariés, fonctionnaires, ne pourraient pas travailler une heure de plus gratuitement par semaine pour résorber les déficits, que chacun prenne sa part de manière équitable?
Christine Durieux, professeure émérite des universités. À un moment où le gouvernement envisage la privatisation d'Aéroport de Paris et de la Française des Jeux, ne serait-il pas judicieux d'envisager la privatisation de l'audiovisuel public, ce qui permettrait de supprimer la redevance et redonnerait un petit peu de pouvoir d'achat, compte tenu de la médiocrité des programmes aussi du dynamisme de certaines chaînes qui rapportent de façon souvent plus efficace l'actualité.
Événement Balance ton poste spécial Grand Débat National. À l'occasion du Grand Débat National, Cyril Hanouna et la secrétaire d'État Marlène Schiappa donnent la parole aux Français.
La confrontation, oui.
Oui.
Les blagues salaces, non.
Mais je veux vous dire, c'est pas parce qu'il y a la ministre qu'on va pas rigoler, qu'on va changer le ton de l'émission.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on est en train de faire là, je le redis, les téléspectateurs, ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'un grand débat, un atelier du grand débat, ça peut être n'importe quoi. Dimanche, vous allez manger chez votre belle-mère, vous allez être 8-9 autour de la table. Ah, oui. C'est plus une engueulade familiale, c'est un atelier du grand débat national.
Bernadette Ducret, que je suis retraitée, j'étais cadre dans la fonction publique. Moi, je crois vraiment qu'il faut réduire la dépense publique et qu'il faut aussi réduire le niveau d'imposition.
Merci madame.
Bonsoir. Oui, bonjour, Vanina Ducasse. Je voudrais, ça reprendra ce qu'a dit déjà au moins une personne, de dire que je n'ai pas le sentiment que l'exécutif a l'intention de diminuer les dépenses publiques.
je cherche des actions pour préparer cette réunion, j'y ai pensé, je réfléchis, mais je n'en ai pas trouvé. Alors peut-être que certains de vous, vous allez en trouver. Et il y a une autre chose, moi je travaille beaucoup, j'ai toujours beaucoup travaillé, je paye des impôts. Je n'ai plus envie de voir cet argent jeté par la fenêtre, de cet argent durement gagné. Moi, pendant qu'il y en a qui se promenaient, ben, j'ai travaillé pendant ce temps. Voilà, c'est tout.
Dernier élément concernant ces économies budgétaires, les fonctionnaires, leur nombre devrait continuer à baisser.
L'exécutif compte supprimer 120 000 postes d'ici la fin du quinquennat Macron.
Dans un climat de restrictions budgétaires, l'éducation nationale aussi est mise à contribution.
Il est urgent de baisser les dépenses publiques. Ça veut dire qu'il faut faire des choix, et parfois des choix difficiles.
Ces trois dernières années, les hôpitaux ont économisé 3 milliards d'euros. L'année prochaine, on demande encore 700 millions d'euros d'économies aux hôpitaux.
La seule façon de pouvoir baisser l'impôt, c'est en baissant la dépense publique.
François, juste peut-être pour rectifier un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on a fermé le débat sur la fiscalité.
Le débat n'est pas du tout fermé.
Voilà, à l'ITEP. Mais dans la présentation du débat sur la fiscalité, on a tout de suite parlé en fait des services publics qu'il fallait supprimer pour pouvoir améliorer cette fiscalité. Il me semble que le débat sur la fiscalité, c'est aussi revaloriser l'impôt et dire en quoi il est nécessaire, peut-être ramener des impôts qui étaient nécessaires et qui ont été supprimés. En tout cas, savoir en quoi il doit être nécessaire, ce à quoi il peut servir et pas nécessairement supprimer des services publics.
Merci, merci monsieur. Il y avait une question d'une...
Bonjour messieurs, excusez-moi, je ne peux pas vous lever, j'ai un problème de genou. Moi, je ne vais pas parler de fiscalité, je ne suis pas concernée, je ne m'y connais pas. Moi, je vis une souffrance. J'attends un logement depuis 13 ans. Ici, dans cette mairie, on ne veut pas me recevoir, on ne veut pas me loger, on me dit qu'on n'a pas de logement, alors que je suis âgée, retraitée, avec une carte à plus 80%, et je suis au quatrième étage dans une chambre et je partage les toilettes avec une quinzaine de gens non recommandables. C'est ça le problème des Français. Cela fait 30 ans que je suis dans l'arrondissement. J'ai travaillé toute ma vie. Mon dernier travail était tellement pénible. J'ai plusieurs pathologies, je ne veux pas les énumérer. Et donc je suis devant vous, messieurs, en ce débat. J'aimerais qu'il y ait de la transparence dans l'attribution des logements, et en particulier dans le 16e.
D'accord.
Et pour finir, messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Je voudrais dire à cette dame qui a fait ça à Madame Biazzi, que j'ai toute, moi je suis instruite, j'ai toute ma tête. Donc, madame, je ne suis pas folle. Je revendique mes droits. Ne me touchez pas.
Madame a fait ça.
Je revendique mes droits. D'accord. Et si vous vivez la situation que je vis, il y a longtemps que vous vous serez jeté du quatrième étage. Je vous remercie infiniment, monsieur.
Merci, madame.
Si la France, la France d'en bas, comme disent les gens là-haut, allez faire un tour là-bas. Chez les riches en photo, et si les gens du haut, eh ben oui, pourquoi pas, venez vivre là en bas, eh ben ça changerait rien.
Comme un bruit qui court.
Vous parlerez, madame. Non, non, mais ne vous inquiétez pas, vous parlerez, on a encore du temps. Monsieur.
Oui, bonjour, Didier de Vergès, je suis un citoyen lambda. Je reviens quelques instants sur le diagnostic de ce qui se passe aujourd'hui, qui est en fait l'expression d'un malaise assez profond. Un malaise qui met en cause les élites méritocratiques de notre société. Ce qu'on voit dans la rue aujourd'hui, en gros, ils sont très 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 en distance par rapport à notre démocratie aujourd'hui. Ça donne un sentiment profond d'exclusion de la parole publique pour tous ces gens. Alors, je ne veux pas faire de polémique, hein, soyons clairs. L'École nationale d'administration est une grande école française créée en 1945 pour démocratiser l'accès à la haute fonction publique de l'État. Elle est chargée aujourd'hui d'assurer la sélection et la formation initiale et continue des hauts fonctionnaires de l'État. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'elle a créé des pratiques évidentes de clans. Le clan de ceux qui vivent entre eux et qui n'ont plus de relation avec le monde réel. Mais qui, entre eux, aura peut-être tendance à se donner un petit peu trop les couilles.
Vous ingérez une école qui a préparé des générations de hauts fonctionnaires. Je suis persuadé qu'il y en a ici dans la salle.
Mais oui,
il y en a là. Bon, je ne peux pas accepter de me faire injurier comme ça.
Laissez-moi, c'est pas une communauté autogérée. Non, c'est moi qui prends les micros. Non. Mais je vous demande de vous asseoir.
Il y a ceux qui ne causent pas, qui voudraient bien, qui ne peuvent pas, qui n'osent pas, qui ne font pas, qui n'en pensent pas moins et qui sont là, coincés entre deux flics, engrenagés dans cette mécanique mathématique. La clim, c'est facile. De faire de grands débats, c'est facile. En restant assis là, c'est facile. De regarder tout ça, en se disant ma foi. Mais qu'est-ce que je fous là, c'est facile. De regarder tout ça, en se disant ma foi. Mais qu'est-ce que je fous là. Qu'est-ce que je fous là. Qu'est-ce que je fous là.
Beaucoup de chance d'être dans ce beau pays où on peut organiser, grâce à la mairie et à la maire du 16e arrondissement, un beau débat comme celui de ce soir. Merci beaucoup.
Ah oui, on a de la chance d'être dans un beau pays où on peut organiser de beaux débats, hein. C'est pas la Corée du Nord, la France.
Oui, enfin, quand même, je relève un risque de radicalisation de certains électeurs à l'occasion de ces grands débats, puisque je te rappelle qu'ils parlent quand même, Charlotte, de privatiser Radio France, alors même que 10 milliardaires sont propriétaires de la grande majorité des médias. Ah, ça n'a pas l'air de déranger personne dans le 16e arrondissement.
Par contre, à Montreuil, ça a réagi. Et au carrefour de la Croix de Chavaux, à deux pas de la Parole Errante, un lieu de création, de réflexion et de résistance créé par Armand Gatti, une baraque jaune est apparue. Ça y est, c'est la première couche.
Oula, je vois qu'elle a bien le coup de main là.
La première couche en jaune, quoi, ça y est.
Première couche en jaune, ouais.
Alors, c'est une cabane et c'est un point fixe en même temps, quoi, c'est ça?
Ouais.
Ce point fixe là, il est parti justement de la Parole Errante. Et puis, bah, il a fallu quand même s'organiser, enfin, etc. Et donc, depuis. Point fixe tous les jours du lundi au vendredi, de 16h à 20h.
Mais là, en même temps, ça devient la forme originelle de ce mouvement, quoi. C'est-à-dire que vous êtes au rond-point de Montreuil.
Absolument.
C'est ça quand même la force de ce mouvement des Gilets jaunes, quoi. C'est que tout d'un coup, ça prend position dans des endroits de vie, de passage.
Improbable.
Improbable aussi.
Et il a été question de la cabane très très vite.
Ah ouais, on a tous les Gilets jaunes, hein.
On est tous des gilets jaunes.
Ah ben oui.
Alors pourquoi?
Ah ben pourquoi?
Ouais.
Mais la vie chère.
La vie chère.
Ah ben oui. Et surtout faire des familles.
Hein. Ben moi je suis Monique. J'ai 72 ans. Toutes mes dents, c'est pas vrai. Et je suis relativement nouvelle montreuilloise. Et je fais partie des baby-boomers de cette génération qui a tout eu. Et qui n'en a rien fait. Et donc, ben, je trouve tout à fait normal d'être là, tous les
jours. Vous avez tout eu et vous n'avez pas transformé le monde, quoi, c'est ça ?
Absolument.
Ouais, d'accord.
On a été très égoïste. On a pompé le pétrole en veux-tu.
Vous avez tout gardé pour vous, quoi.
On a tout gardé pour nous. Ah non, mais c'est vrai. Moi, je suis ce que je suis grâce à l'école républicaine d'après-guerre. Et ben, quand on est arrivé en âge de la conserver comme telle qu'elle était, on n'a vu personne. Hein.
Alors Monique, voilà. Là, il y a un petit bras zéro.
Oui.
On est en face de l'hommage à la résistance.
Oui.
Pas mal quand même, hein,
oui.
Ici, croix de chaveau, quoi.
Oui, croix de chaveau, oui.
Voilà. Et quand même, vous avez fabriqué une boîte aux lettres. Hein, il y a une boîte aux lettres.
Elle est magnifique. Hein. Hein. Voilà, ça, c'est ça. Thierry qui nous a fabriqué ça.
Et l'idée, c'est de recueillir quoi, alors, avec ça ?
Eh bien, des doléances pour les gens qui n'ont pas les mêmes horaires que le point fixe, etc. Donc, ils peuvent mettre leur papier ici. Puis, ben, nous, on va les chercher là. Tiens, ben, tu vois, on a...
Alors, là-dessus... Un petit papier jaune. Créer une compète de pétanque.
Ben, voilà.
Inviter les groupes de boulistes de Montreuil. Nom du concours, on a les boules.
Voilà. Voilà. Donc, alors, moi, mon frère est un rond-point perdu dans les Landes. Sa fille aînée a accouché. Ça y est, la maternité d'Orthez est fermée. Maintenant, il faut aller où à Pau, à Mont-de-Marsan, 40 km d'un côté comme de l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent, tous ces gens ? Nous, urbains, est-ce qu'on s'en rend compte ?
Ouais, c'est pour ça que c'est parti des campagnes, quand
ben
même.
C'est pour ça.
Des ronds-points,
mais tu sais bien, mais enfin, Christophe Guy, lui, a très très bien analysé ce genre de choses. Ça fait 10 ans qu'il en parle. Ça fait 10 ans que l'université française lui tape sur la gueule parce qu'il n'est pas universitaire. Et que, évidemment, il n'y aurait jamais aucun problème qui viendrait de ce côté-là. Parce que c'est pas les Blancs qui étaient le plus dans la merde en France. Bah oui, bah on voit bien, hein. On voit bien ce que ça donne.
Et vendredi, là, vous avez invité Jacques Rancière à venir justement partager un peu des réflexions, discuter, rencontrer les Gilets jaunes de Montreuil.
Alors, je ne sais pas s'il est venu rencontrer les Gilets jaunes de Montreuil. Jacques Rancière, nous avons préparé des questions bien précises sur la situation d'aujourd'hui et sur la situation des Gilets jaunes. Voilà. Mais avant lui, nous avons eu l'historien Samuel Hayat pour 1948. Et Vaniche était venu pour 1792-93. Et là, Rancière a accepté très rapidement.
Donc il faut s'armer intellectuellement quoi, aussi, pour comprendre ce qui se passe
sûr.
Et pour continuer. Quoi.
Mais il y en a ras-le-bol de dire que les Gilets jaunes sont des abrutis. Mais enfin, on pense comme tout un chacun. Enfin, il n'y a que les intellectuels qui pensent et qui ont le droit de s'exprimer. Non, on n'est pas des abrutis. On pense, quel que soit notre niveau diplomatique.
Merci, Monique.
De rien.
Des choses assez simples sur le fait de...
Pardon, c'est
de,
ça
de
va
compliqué d'exister dans le territoire.
Vous faites un selfie, là, c'est ça ?
Oui.
Et c'est bien, hein ?
Ouais, bon courage. Bien. Oui, heureusement. Hein.
Vous êtes de Montreuil ?
Non, je suis tunisien.
Ah ouais.
Oui, je suis en vacances. Oui, mais heureusement. Hein. Bon courage.
Les Gilets jaunes, en France, oui, comme ça. Ce sont des hommes. C'est des hommes.
Oui, c'est des gens en France. Oui. C'est les gens, vraiment. Hein. Moi, j'ai... À 15 jours, j'ai à la Tunisie. Hein. Toute la Tunisie qui parle comme ça.
Oui,
les Françaises, c'est vraiment...
Même en Algérie, ils parlent de vous.
Oui, oui.
Ah,
oui.
C'est des gens.
Oui. Sérieusement, bon courage. Oui.
C'est quoi votre prénom ?
Ça. Ah, Amine.
On compte sur le Dieu, vous aide, Inch'Allah, pour vous, pour les gilets jaunes.
Inch'Allah pour les gilets jaunes.
Oui, le Dieu.
Ça, je ne suis pas sûr, mais...
Oui. Vous avez fait ça pour les pauvres. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Bravo. Chez nous, on ne trouve pas ça. On dit la vérité. Vive Dieu, vive la France.
Moi, je suis... Ok, bon courage,
ouais,
mon gars.
Merci, allez.
Bon courage, oui, très bien. Au revoir, merci.
Vingt heures.
Alors on passe devant le Café Librairie Michel Firk. Club des Gilets jaunes 20h, rencontre avec Rancière dans la grande salle.
Bienvenue à cette troisième rencontre du Club des Gilets jaunes de Montreuil. Ce soir, une invitation à une discussion en présence de Jacques Rancière qui est avec nous. Merci pour sa présence.
Ce qui me paraît quand même important, c'est que il ne s'agit pas simplement de dire, bon, le Macron a oublié le peuple s'est rappelé à lui, parce que bon, ce qui se rappelle à lui, c'est toujours quand même, c'est pas le peuple, c'est pas la population, c'est pas la grande masse, c'est même pas la grande masse des pauvres. C'est des gens qui tout d'un coup, comme ça, déclenchent quelque chose et qui s'y rallient. Et bon, ça veut dire que bah, le peuple, c'est pas quelque chose qui existe avant l'action. Quoi. Le peuple, c'est. L'action crée un certain type de peuple. Il faut bien voir ça, je crois que. Pas toujours se référer à quelque chose comme un peuple qui serait par derrière, qui serait une espèce de substance. C'est pas une substance, un peuple, c'est un résultat. Et un résultat, ça veut dire, bon, effectivement, les Gilets jaunes, ils ont créé quelque chose comme un peuple. Un peuple, effectivement, imprévisible par rapport au gouvernement. Et je passe souvent près d'un rond-point où il y a un drapeau tricolore et puis à côté, il y a un poster. Et le poster, c'est qui ? C'est Che Guevara, quoi. Ça veut dire que, bon, ça veut dire que oui, disons, le drapeau tricolore, ça peut être aussi bien, effectivement, la Révolution française, la Marseillaise, que l'affirmation des petits blancs, racistes et compagnie, quoi. Voilà, donc je pense que, bon, il faut tenir à cette espèce de constitution d'une espèce de symbolique collective, et oui, effectivement, émeute, ça veut dire, effectivement, d'abord, mais aujourd'hui, bon, surprendre tous les jours, être tous les jours ailleurs que là on vous demande. Alors bon, ce qui est quand même extraordinaire dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que précisément c'est un mouvement qui n'a pas compté sur l'ennemi, quoi.
Merci beaucoup, Jackie. Non, la vérité, merci beaucoup, Jackie. Il fait partie de la tradition intellectuelle française qui discute, qui débat. Mais, par contre, on ne comprend pas tes livres, Jackie. Hein. On ne comprend pas ces livres.
Voilà, il est 22h30. Merci à Jacques Rancière d'avoir joué le jeu de cette discussion. Merci aussi à vous d'avoir accepté cette forme-là. Et comme il y a beaucoup de gens ici qui cherchent des nouvelles formes pour justement la démocratie, ben voilà, on a essayé quelque chose d'un peu neuf. Merci à vous et à très bientôt. À demain, oui, exactement.
C'est un joli petit vaisseau, c'est un joli petit transat, l'habitude, une jolie petite traversée. Au début, c'est l'attente, puis après, c'est l'habitude. L'habitude ne fait jamais dire enfin, l'habitude. On me dit, enfin, l'habitude, oui. L'habitude, tu vois, ça se raconte même pas. Au début, c'est l'attente. Au début, en fait, c'est l'attente de l'habitude. L'habitude, tu vois, tu fais du 41. Eh bien, tu meurs, tu fais du 41. C'est pas comme quand tu fais du 16 à 3 ans et du 61 à 76 ans, hein? Non. L'habitude, c'est ça, tu vois. Tu nais, tu fais du 41. Tu vis, tu fais du 41. Tu meurs, tu as toujours fait du 41. L'habitude, c'est ça. C'est pas long, l'habitude, hein? L'habitude, c'est fait pour jamais dire enfin. L'habitude en parle à personne, enfin, à personne, si on veut, hein. Y'a toujours quelqu'un à qui tu reproches l'habitude, toujours, hein. Même toi qui fais du 41, divisé par deux, ça fait quand même du 20 demi. Parce que tu l'es, enfin, tu l'es, on t'a mis au monde, hein. Y'a toujours quelqu'un à qui tu reprocheras l'habitude, toujours, oui. Parce que c'est long, hein. C'est très long avant que ça vienne un peu l'habitude. Pour enfin, jamais dire enfin. Il en faut du temps.
Écoutez l'intégralité de la rencontre organisée par le Club des Gilets jaunes de Montreuil avec Jackie Rancière, donc sur le site de La Parole Errante, demain. C'était hier soir et ça a duré plus de 2h30.
C'était Comme un bruit qui court. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'émission à l'adresse franceinter.fr. Abonnez-vous au podcast et faites courir le mot dièse Comme un bruit sur les réseaux sociaux. Après les infos, vous retrouverez Jean-François Zizel et sa preuve par Z. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h pour des nouvelles aventures dans tous les sons et dans tous les sens. Et d'ici là, vous avez le temps de lire Le président des ultra-riches de Monique et Michel Pinson-Charlot aux éditions Zone.